La comédie itinérante sera de passage par chez nous à Saint-Jean-en-Royans le jeudi 27 mars avec ce spectacle article 353 du Code pénal. C'est à 20h donc jeudi 27 et pour en parler, je reçois au téléphone Emmanuel Noblet. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Vous êtes comédien, metteur en scène et on va prendre le temps un peu de dérouler déjà votre parcours et puis aussi cette adaptation du roman de Tanguy Vielle, article 353, voir un peu la genèse et tout ça. Mais peut-être pour les gens qui ne vous connaissent pas d'abord, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, dire quel est votre parcours, notamment dans le milieu du théâtre ?
Oui, avec plaisir. Moi, j'ai commencé le théâtre après des études de droit. D'ailleurs, c'est marrant parce que je me retrouve à faire un spectacle qui sonne comme un retour au droit. J'ai été comédien, assistant de metteur en scène, j'ai fait des lumières, de la technique, et puis au bout d'un moment, je crois que j'étais prêt pour faire de la mise en scène. Et j'ai commencé par adapter un roman il y a 10 ans, et avec lequel j'ai eu envie de faire du théâtre. C'était Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal, et j'en ai fait un seul en scène que j'ai beaucoup tourné. J'ai joué 300 fois en France et à l'étranger. Et depuis, je continue à être acteur pour d'autres metteurs en scène, mais je suis aussi donc metteur en scène. Et en général, je fais ça, j'adapte des romans, je prends la littérature contemporaine. Et ça m'intéresse de savoir comment faire du théâtre avec ça.
Et effectivement, vous avez été repéré et connu pour l'adaptation de Réparer les vivants en 2015, qui a pas mal tourné à Avignon. Alors vous dites, il y a eu 300 représentations sur ce spectacle, donc c'est quand même beaucoup hein, pour une pièce.
Ouais, c'est dingue.
Vous avez obtenu un Molière en 2017 là-dessus. Et pourquoi cette appétence pour l'adaptation de romans alors ?
Eh ben, je me l'explique pas trop. Le fait est que peut-être. La place des metteurs en scène habituels, c'est de faire des mises en scène sur des textes de théâtre ou des textes déjà existants qui ont déjà été mis en scène plein de fois et que ça, on le voit régulièrement et c'est très intéressant. Hein, je suis le premier spectateur de ça. Mais que moi, j'aime aussi, j'ai fait un peu de montage vidéo et j'ai l'impression quand je lis un livre, j'aime tellement la littérature, je trouve que le amener ça sur un plateau, amener cette langue là qui est pas du tout la même que du théâtre classique ou même de théâtre contemporain, j'aime bien ça et ça m'intéresse de faire comme du montage vidéo, justement de couper, de faire des séquences en disant on fait 5 minutes sur une scène puis on passe à une autre. Je ne réécris pas du tout, mais simplement je coupe. Et donc c'est le livre d'origine, simplement réduit à un temps de représentation qui est pas trop long. C'est pas les 5, 6 heures ou 8 heures de lecture d'un roman, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Et voilà, et j'aime bien ça parce que moi ça me fait travailler mon imaginaire et j'aime bien que le spectateur puisse tout imaginer aussi. Je lui montre assez peu de choses, je mets pas tous les personnages du roman sur scène, mais je choisis un roman qui raconte beaucoup de choses et le spectateur se fait sa petite histoire, son film personnel. Et c'est la forme la plus proche de celle du lecteur en réalité. On imagine tous les personnages.
Ouais, donc c'est une forme assez originale et moi ça me fait faire des ponts avec ce qu'on connaît nous dans le travail du son. La différence entre un livre audio finalement et un documentaire sonore où on va mettre en scène en fait.
Exactement. Je retiens votre comparaison parce que pour moi c'est ça et je trouve que ça fait voyager, et ça développe l'imaginaire des auditeurs ou spectateurs. C'est exactement ça.
Alors, donc il y a eu du succès pour Réparer les vivants. Là, cette année, vous revenez avec article 353 du Code pénal pour un ancien étudiant en droit. Ouais. Il y a peut-être quelque chose de votre histoire qui vous parle. Comment vous avez choisi ce roman-là à mettre en scène ?
C'est un coup de foudre à la lecture. Ce qui est drôle, c'est que j'ai lu l'année qui a suivi Réparer les vivants. Et immédiatement, je me suis dit, voilà un roman très très important, une langue sublime et un enjeu humain, émotionnel très fort. Et c'est ce que je recherche. Je trouve que c'est ça qui est intéressant pour faire du théâtre, du spectacle vivant. Et j'avais demandé les droits tout de suite dès la parution du bouquin en 2017 à Tanguy Vielle et qui avait refusé. Il voyait pas comment faire du théâtre avec ça et il a mis longtemps, enfin il refusait. J'ai mis 5 ans à le convaincre.
Ah, donc c'est un travail, vous l'avez travaillé au corps, le Tanguy Vielle.
Ah ouais, vraiment. Tous les ans, au début d'année, bonne année, quand est-ce que tu me donnes les droits? Puis, il a fini par craquer. Et maintenant, il est très très heureux. D'ailleurs, il a vu le spectacle 3 fois et je suis très heureux de ça. Mais oui, c'est, pour lui, c'était pas forcément évident. Il y a des auteurs comme ça qui se disent, mais je vois pas comment. Ou peut-être est-ce qu'il avait peur que sa langue soit abîmée sur un plateau. Je sais pas, mais il avait des raisons d'être réticent. Ces raisons. Et j'ai réussi à le convaincre. Je suis très très content de ça. Et après ce roman, bon, c'est effectivement l'article, c'est drôle parce que moi j'ai tout oublié de mes 5 ans d'études de droit et notamment les quelques articles qu'on apprend par cœur. Mais effectivement, ça m'y ramène un peu.
Alors, article 353 du Code pénal, on va être dans un thriller criminel, théâtral. Il y a marqué « dans lequel se reflète la rage d'un homme à cran et bien des lueurs d'humanité ». On va quand même parler d'humanité dans ce polar.
Ah ouais, bien sûr. Oui, certains avaient parlé de western breton à la sortie du bouquin, j'aimais bien ça. Et il y a quelque chose que... Oui, c'est un polar, on sait dès le début ce qui s'est passé. C'est un homme qui a jeté à la mer un escroc et il est arrêté par les gendarmes et il est placé devant un juge. Et dès le début, on sait tout ça. Mais on va apprendre que son fils aussi est en prison. On va se demander pourquoi d'ailleurs. Et cet homme va commencer à raconter la généalogie d'un crime en réalité. Là où ça pourrait être expéditif et où le juge pourrait dire « bon, ben alors, vous dormez en prison ce soir et votre procès aux assises aura lieu dans quelques mois », cet homme, ce juge d'instruction, va le laisser parler. Et on a un homme là qui sans doute n'a jamais autant parlé de sa vie. C'est un taiseux, un breton qui dit qu'il n'a pas les mots, que voilà. Et en fait, cet homme va se confier et raconter toute sa vie, tout un parcours et comme tous les taiseux qui un jour passent à la parole, je pense qu'il y a des trésors qui en sortent. Et là, c'est le cas. C'est non seulement magnifiquement écrit, mais c'est bouleversant. Et on découvre une humanité insoupçonnée et toute une vie, la vie d'un homme qui se raconte.
Et pour comprendre un peu les coulisses d'une telle mise en scène, d'une telle adaptation de ce roman-là, comment vous travaillez ? Alors, parce que vous, ce qui vous a touché, c'est la beauté du texte et des mots.
Ouais.
Comment vous travaillez avec, pour la mettre au plateau et notamment avec les comédiens, comédiennes ?
En fait, il faut que je coupe. Je sais que je dois réduire le texte, donc parce que ce serait trop long sinon. Donc, je garde je fais une première version qui est réduite de ce que je peux raconter à l'image. Là, dans les romans de Tanguy Viel, la Bretagne, c'est le décor, mais c'est comme un personnage. Donc, je sais que je vais projeter quelques images, parfois, pour se sentir vraiment qu'on est au bord du littoral, qu'on est dans la rade de Brest, que c'est le décor. Y a des choses que je peux ne pas faire dire par les comédiens, mais que moi je vais leur dire comme metteur en scène en disant non, à ce moment-là, il est comme ça, il dit ça, il pense ça, parce que regarde, dans le bouquin, c'est écrit comme ça. Ça fait comme de la direction d'acteur, en fait, des passages que je coupe. Et puis je choisis un décor et des costumes qui racontent aussi des choses, des lumières et de la musique. Voilà, tout ça raconte la même histoire.
Donc vous essayez de traduire les mots, vous faites une adaptation, une interprétation artistique des mots avec de la musique, du son, nous plonger, nous, spectateurs, spectatrices, dans une espèce d'ambiance qu'on n'aurait pas forcément avec le roman.
J'essaye que ce soit le plus proche du roman. C'est-à-dire, moi, mon intervention est vraiment au service de cette histoire-là. Mais après, le gros du travail, c'est d'abord choisir un acteur qui porte le texte. En réalité, on est deux. Mais moi, je fais les juges. Mais comme je passe mon temps à écouter, je me disais, bon, je peux le jouer quand même, alors que je suis metteur en scène. Et j'ai surtout un immense comédien, un de nos très grands acteurs nationaux. Hein, j'ai pas peur de le dire, mais Vincent Garanger, il a 40 ans de théâtre public derrière lui. Il a beaucoup tourné d'ailleurs avec la Comédie de Valence. Il était artiste associé à Valence pendant des années. Et c'est un immense acteur. Il est bouleversant. Et quand c'est un tel acteur qui porte le texte, je sais que dès qu'il va commencer à parler, jusqu'au bout, personne va décrocher parce que il est profondément humain, dense, charismatique, secret, mystérieux, et il captive tout le monde. Et après, moi, mon travail, c'est de le diriger, de le placer à tel endroit sur scène, de faire un équilibre avec le reste, oui, le son, la vidéo. La vidéo, il y en a très peu. Et puis, comme on est dans une version réduite du spectacle, parce qu'on tourne dans plein de petites salles, je la mets sur un petit écran. Ce sera une configuration un peu réduite, mais tout, c'est le spectacle en intégralité quand même.
C'était une évidence pour vous de travailler avec un monument du théâtre comme Vincent Garanger. Et puis je me dis, vous, de votre place de metteur en scène, qu'est-ce que ça fait de diriger quelqu'un qui a vraiment autant de bouteilles?
Ah ouais, c'était un défi. Mais ce qui est drôle, c'est que nos envies se sont retrouvées là-dessus. C'est-à-dire, pour tout vous raconter, on était très nombreux à vouloir jouer ce roman au théâtre, en faire du théâtre. Il y a d'autres grands noms qui me faisaient un peu peur parce que la concurrence était rude, mais tout le monde a abandonné parce que, comme je vous le disais, Tanguy Viel ne voulait pas donner les droits. Mais quand j'ai réussi à le convaincre, c'est drôle, moi je jouais dans un spectacle à l'époque aux Amandiers à Nanterre, et puis je vois Vincent Garanger qui vient me voir après le spectacle, qui me dit bravo pour le spectacle, et qui me dit mais c'est toi qui as les droits d'article 353. Et je lui dis, mais comment tu sais? Il me dit, parce que je lui ai demandé, et il m'a dit qu'il venait de donner les droits à un acteur, je suis sûr que c'est toi. Et je lui dis, oui, c'est moi. Et tu voulais le jouer? Et il me dit, oui, bien sûr, je voulais le jouer. Et puis il avait son vieux caban, il faisait un peu la gueule, un peu taiseux, un peu comme le personnage du roman, Martial Kermer. Et il est parti comme ça, et moi, quand j'ai commencé à faire l'adaptation, après, c'était évident que j'avais plus que le visage de Vincent en tête. Et c'était évident qu'il était l'acteur idéal pour le jouer, quoi. Donc après, je l'ai rappelé, je lui ai dit, mais si tu veux, moi, mon envie, c'était de mettre en scène cette histoire. Moi, je peux pas jouer cet homme-là. Si tu veux le jouer, je te mets en scène. Et voilà. Et donc, il était très heureux. Et Tanguy Viel aussi, heureux de voir que nos deux envies se rejoignaient.
Donc c'est une réunion de plein d'envies, de plein de bonnes circonstances pour que ça s'aligne, ouais. et que ça marche, quoi.
Exactement. Et au-delà de ça, même une rencontre entre un acteur et un texte, parce que ce que Vincent Garanger fait avec le texte, très souvent les spectateurs après disent ils disent comme toujours comment vous faites pour apprendre tout ce texte, parce que quand même il est au mot près pendant 1h30 de littérature, c'est très impressionnant. Mais y a une telle décharge d'émotion et une telle incarnation de sa part que les gens disent c'est fou. Et Vincent, il a une très belle métaphore pour ça. Il dit, vous savez, c'est comme quand un cavalier et un cheval s'entendent bien. Il dit, moi je suis le cavalier, le cheval c'est le texte, mais qui est-ce qui conduit? C'est le cavalier, mais bon, en même temps c'est le cheval qui porte. Et de fait, c'est le texte qui l'emporte très loin, et lui il se met entièrement au service des émotions du texte. Et c'est très beau de les voir tous les deux. En tout cas, moi, je passe mon temps tous les soirs à les regarder et à jouer. Quand même, je donne le verdict final comme juge. Mais je suis fasciné tous les soirs.
Une belle histoire d'humanité et de communion, ouais, entre ce texte, ouais, et vous et ce comédien. Article 353 du Code pénal, ça ouvre un parcours à la Comédie de Valence, donc ce 27 mars, qui ira jusqu'au 17 avril. Justice en examen, un parcours facette que la Comédie de Valence met en place. Pourquoi, vous, la question de la justice, là, vous donne envie vous avez eu envie d'en parler, et comment ça prend place dans ce parcours-là? Est-ce que vous avez pu travailler, par exemple, avec les autres metteurs en scène des autres pièces qui parlent de justice dans ce parcours-là?
Alors, malheureusement, on n'a pas l'occasion de se croiser. On a des plannings de tournée où chacun est à droite, à gauche, partout en France, alors que les autres jouent à ce moment-là sur la thématique de la comédie itinérante. Et il y a des spectacles que j'aurais aimé voir que je ne peux pas avoir, d'autres que j'espère croiser encore et découvrir. Mais non, en réalité, c'est la Comédie de Valence qui choisit sa thématique et qui, du coup, après, invite des spectacles. Moi, le rapport à la justice, c'est vrai que ça me travaille depuis longtemps, et sans doute que mes études de droit n'étaient pas là par hasard. Mais oui, il y a cette thématique de justice sociale et de comment faire société qui travaille un peu les pièces sur lesquelles je suis. Et l'article 353 du code, en réalité, de procédure pénale, le titre est inexact, mais ça faisait déjà très long, je crois. Il a préféré couper
code procédure pénale. Code va plus vite que procédure, ouais.
Exactement. Déjà que je pense aux éditions de Minuit, ils ont dû lui dire, t'es sûr, article 353 du code pénal, c'est pas un peu austère comme titre? Oui, mais en réalité, c'est même le code de procédure pénale. Mais bref, cet article de 353 du code de procédure, il est célèbre parce que il est affiché, il est même répété par tous les présidents de cours d'assises. si un jour l'un d'entre nous est amené à être membre du jury d'assises, on entendra ce code qui dit qu'en gros, il faut oublier les semaines et les mois de débat. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, on n'aura pas à justifier notre décision, c'est quelle est votre intime conviction. Et l'article, il est très très beau, il est très très bien rédigé d'un point de vue littéraire, mais il est aussi magnifique dans l'éthique, parce que c'est en gros au fond, dans la sincérité de votre conscience, si vous réfléchissez dans le silence et le recueillement, c'est écrit comme ça dans l'article, quelle est votre intime conviction. C'est ça qui résume votre devoir. Voilà, et je trouve que ça a un sens politique, humain, enfin, c'est avec ça qu'on peut faire société, quoi, et moi, ça me touche beaucoup, et c'est aussi un article qui, du coup, permet d'éviter la prison à certaines personnes, mais et à l'inverse, c'est dangereux, parce que, juste, mon intime conviction, c'est que cette personne est coupable, c'est tout, et je ne veux pas entendre raison, enfin, c'est sur un fil, quoi, c'est vertigineux, et la fin, d'ailleurs, du roman, et donc du spectacle, pose question. Parce que ça repose sur une intime conviction et voilà, ça fait débat quoi. Et donc ça a complètement son lieu d'être dans une programmation sur la justice.
Oui, la justice en examen, sous-titré ouais. Qui juge la justice, un pari assez audacieux de la Comédie de Valence en ces temps ouais. troublés en termes politiques, ouais. en termes de justice. Enfin, c'est vrai qu'on pourrait, on peut faire vraiment le lien avec nos problématiques contemporaines, hein, de repli sur ça, d'affrontement entre des groupes sociaux. Enfin bon.
Exactement.
Et du coup, on a besoin de retrouver de l'humanité, de la responsabilité aussi dans nos réflexions. Qu'est-ce qu'on pense ? Donc ça a du
oui,
sens.
Et puis... Ouais, là, je suis entièrement d'accord. Et puis quand on voit que même la science n'est plus crue comme en termes de croyance, alors que ce sont c'est une science et que les opinions deviennent la chose la plus importante, comme s'il n'y avait plus de faits et que on était dans une vérité alternative. La justice doit faire face à ça. On peut ne plus avoir confiance ou ne plus croire en la justice. Et la justice, c'est un problème encore plus épineux que la science, dans la mesure où elle repose sur des jugements humains. Et soit on fait confiance aux juges, à des années de procédure, soit quand c'est mis en péril, on les remet en question, mais on se dit, qui pourrait juger les juges et qui est garant de l'indépendance des juges, on voit des juges qui sont nommés par des politiques à certaines strates de juridiction, donc ça interroge, et l'indépendance des juges est remise en question régulièrement, tout ça pose vraiment question, et c'est bien d'y réfléchir ensemble, collectivement.
Oui,
c'est l'échange, c'est la parole là-dessus qui permet de réfléchir et de faire son avis, quoi.
Et que le spectacle vivant s'en saisisse, la littérature, le spectacle vivant, plutôt que les réseaux sociaux, les fake news et tout ça, quoi, qui nous amène à réfléchir
humainement. Dans les salles de spectacle, c'est quand même un des derniers endroits où on fait société, au sens où on va écouter ce qui se passe. Mmh. On va pas avoir un temps d'attention de quelques secondes devant une vidéo, on va pas dire « je like » ou « je mets un pouce vers le bas », enfin, et moi, je me fais la réflexion aussi en jouant ce juge qui, pendant une heure et demie, écoute cet homme. Ça n'arrive plus jamais d'écouter quelqu'un longtemps. Sans vous divulguer l'histoire, je pense que ce juge, il change d'avis. Et je crois que ça aussi, ça arrive très peu de changer d'avis. Actuellement, on se radicalise, on se fait une opinion très vite, ou alors on est mis en relation avec des gens qui pensent tous comme nous dans les réseaux sociaux.
Par les algorithmes, ouais.
Voilà, on est renforcé par des gens qui pensent exactement comme nous. Mais du coup, moi j'aime l'idée que dans une salle de spectacle, les gens ne sont pas tous d'accord, mais ils vont pas forcément l'exprimer. Mais ils auront tous la même matière pour réfléchir. Et il s'agit de réfléchir ensemble et de faire circuler un peu de penser, de douter, de s'interroger, de se confronter. Et il n'y a que comme ça que je pense qu'on pourra s'en sortir et continuer à faire société, plutôt qu'être d'accord chacun dans son coin avec son meilleur ami et avoir que des ennemis autour.
Oui, une culture du débat plutôt que de l'affrontement, des replis sur soi. Et ici, nous, pour donner un peu des éléments aussi plus locaux dans le Royan-Vercors, on essaye d'avoir cette culture du débat. Alors, c'est pas toujours évident, mais on essaye que ça circule. Et effectivement, quand la Comédie itinérante ou alors d'autres associations culturelles du secteur proposent ce type de propositions, c'est important. Et nous, ici, par exemple, à la radio, on essaye aussi que le micro soit ouvert à toutes les prises de position. À ce que ça circule, sinon on va devenir une société sclérosée.
Mais oui, je suis bien d'accord. L'entre-soi, c'est la pire des choses, mais il faut accepter que quelqu'un qui pense différemment a autant droit à la parole que moi, et qu'on doit apprendre à vivre ensemble, et que une opinion divergente de la mienne n'est pas une attaque contre moi. Ou alors, ça veut dire que moi, je voudrais interdire cette personne de parler, et ça n'est pas possible.
Alors, article 353 du Code pénal, donc l'adaptation du roman de Tanguy Viel par vous, Emmanuel Noblet, c'est l'ouverture donc de ce programme, de ce parcours facette justice en examen de la Comédie de Valence. Ça commence donc chez nous, à Saint-Jean-en-Royans, le jeudi 27 mars à 20h à la salle de la Parenthèse. Vous disiez avant qu'on commence, il faut se dépêcher pour prendre des places parce que vous avez un dispositif un peu particulier.
Oui, la Comédie itinérante de Valence nous emmène dans plein de salles qui ne sont pas forcément des salles équipées comme des théâtres habituels, et du coup on vient avec notre décor, une structure pour mettre les projecteurs et des gradins et des chaises, et je crois qu'au total ça fait seulement 80 places ou 79 même pour être précis, donc il s'agit de se dépêcher pour être sûr d'avoir une place, je crois.
Et donc c'est un peu moins que la capacité de la salle de la Parenthèse habituellement. Donc, chers auditeurs, auditrices, dépêchez-vous de prendre vos places auprès de la Comédie de Valence. Et après, donc c'est le début de cette tournée. Vous allez faire pas mal de petites salles en Drôme. Pour vous, c'est important d'aller dans les villages, d'amener ce spectacle au plus proche des habitants, habitantes ?
Oh bah oui, c'est un spectacle qui a été conçu comme ça. C'est-à-dire qu'on a un décor qui peut à la fois être sur des très grands plateaux de 10 mètres sur 10 et dans des grandes salles, et dans cette structure de 6 mètres sur 6 dans n'importe quel village de la Drôme. Et en plus, comme je vous le disais, ce personnage principal, c'est un homme qui ne dit rien, qui estime sans doute que il n'a pas le droit d'aller ailleurs que dans son café du coin et sur son bateau de pêcheur. Peut-être quelqu'un qui est jamais allé au théâtre, mais la parole le libère, et de la même manière que l'écoute du juge le libère, je me dis que ça peut parler à plein de gens. Peut-être, enfin, il faut aller partout, pas seulement parmi les abonnés des salles de théâtre partout en France. Vincent, qui a beaucoup tourné aussi avec la Comédie itinérante de Valence, pour lui c'était très important, et pour moi aussi, on est très heureux d'aller dans des villages partout. Présenter le spectacle partout, dans le plus grand nombre de lieux possible.
Et avant qu'on s'arrête, Emmanuel Noblet, est-ce que vous avez des projets dans les tuyaux pour après cette tournée de Article 353 ?
Oui, des projets pleins. Je continue une tournée par ailleurs d'un autre spectacle que j'ai mis en scène, mais qu'un autre roman que j'ai adapté en seul en scène pour François Cluzet. Il joue en ce moment, ça s'appelle Encore une journée divine, il joue à Paris en ce moment et il partira en tournée l'an prochain. Et puis je vais monter un autre spectacle l'an prochain au Théâtre du Rond-Point avec Marie-Sophie Ferdan, une grande comédienne d'ailleurs qui a joué aussi à Valence et qui sera en Comédie itinérante, je pense, l'an prochain, sur des lettres inédites de Barbara, la chanteuse, et des interviews, un spectacle qui mélange les deux. Et puis j'ai un autre spectacle avec Lola Lafont aussi, qui est en tournée, qui sera à Grenoble la semaine prochaine, enfin voilà, ouais, plein de choses.
Qui s'appelle comment, par curiosité ?
Un état de nos vies. Voilà, et on peut retrouver beaucoup des textes du spectacle dans la dernière publication qui vient de sortir, qui s'appelle Il n'a jamais été trop tard. Voilà, et elle a une manière de parler de l'état du monde et de faire en sorte qu'on se sent moins seul à penser nos solitudes et notre rapport à ce monde très difficile. Elle arrive à mettre des mots et à dire qu'on a le droit d'être perplexe, d'être désemparé, mais du coup on n'est pas tout seul quand on l'a dit, et ça fait beaucoup de bien. Il n'a jamais été trop tard. Voilà,
encore un spectacle humain et nécessaire en ces temps compliqués. Emmanuel Noblet, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Merci à vous.
Et merci. On rappelle aux habitants habitantes de la commune que donc vous serez là avec article 353 du code pénal à la salle de la parenthèse à Saint-Jean jeudi 27 à 20h. Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut prendre ses places auprès de la mairie de Saint-Jean et non pas de la Comédie. Et on suivra vos actualités si vous revenez dans nos belles contrées.
Avec plaisir.
Merci à vous. Au revoir.
Merci. Au revoir.